je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour.
At the Happy Hour. At the Happy Hour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est l'heure de l'Happy Hour, l'émission où l'on peut boire un peu avec modération. Et le cocktail tendance, on en parlait juste un peu avant, c'est le Spritz, bien sûr. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de l'Italie. Aujourd'hui, et plus précisément, on va parler de la Toscane avec un invité. Pour passer un beau moment, d'abord une équipe de choc. Thibaut, bonjour.
Bonjour.
Alors, au programme aujourd'hui.
Au programme aujourd'hui, ma rancune envers l'Italie.
Ah ouais. Éric, salut.
Oui, bonjour les gens. Moi, j'aurais bien aimé avoir un petit verre de Spritz, par contre.
Ah mince, ouais, c'est vrai que là, on est un peu à l'eau. C'est toujours avec modération. Hein. Et puis, Cyril, tu nous parleras de manga.
Oui, exactement.
Avec nous, du coup, aujourd'hui, Bernard Vanel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es l'un des organisateurs de la Semaine Toscane, président d'honneur de l'association Mande Volterra. On va commencer par l'association, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous parler de l'association? Depuis quand existe-t-elle?
Eh bien, l'association Mande Volterra a été créée en 1991, ce qui veut dire qu'elle est trentenaire aujourd'hui. Et les cérémonies de jumelage ont eu lieu en 1992 à Mande et en 1993 à Volterra. Et depuis de nombreuses années maintenant, puisque je crois que c'était en 1997 ou 1998, nous avons des échanges l'automne autour de la culture italienne, à travers la Semaine Toscane.
La Semaine Toscane, on va en parler juste un peu après. C'est toi qui as l'initiative de la création de cette association?
Oui, je pense que je dois beaucoup à mon professeur d'italien au collège, qui m'a donné le désir d'Italie. Et après être allé très longtemps à Venise, j'ai voulu changer de destination. Et je me suis souvenu d'une photo des Balzes et de Voltaire dans mon livre d'italien de 4e. Et après avoir loué une maison là-bas, j'ai fait des rencontres et j'avais proposé ici au maire de Mende, qui à l'époque était Jean-Jacques Delmas, s'il était intéressé par un jumelage avec l'Italie. Il m'a dit « pas de problème, tu as carte blanche ». Donc les premiers contacts ont été pris. La première délégation, je crois, est arrivée en novembre 91 ici. Et puis, donc, depuis 30 ans, on essaie de faire vivre ou survivre ce jumelage.
Alors, quelles sont les actions à l'année de votre association? Il y a des cours d'italien, c'est ça?
Il y a des cours d'italien depuis 30 ans, avec toujours un effectif relativement conséquent qui varie entre 50 et 30 inscrits, avec deux niveaux, un niveau un petit peu confirmé, puis un niveau débutant. Ensuite, pendant 20 ans, nous avons organisé un carnaval qui était un événement dans la ville de Mende, avec des groupes qui venaient parfois d'Italie, parfois d'ailleurs. Nous avions fait venir aussi les Gilles de Belgique, nous avions fait venir des Afghans, les Mamoutones de Sardaigne. Et c'était une époque où l'on arrivait à mobiliser beaucoup de monde et les Mandois vraiment s'investissaient dans ce carnaval. Et puis au bout d'un moment, comme cela se passe souvent, après un certain nombre d'années, les énergies s'épuisent un peu. Et donc, on a abandonné et ça a été un peu repris par le comité des fêtes. Puis depuis donc 24 ans maintenant, il y a cette Semaine Toscane qui a été l'occasion de très grands moments. Notamment, on avait fait des lectures entre Mende et Marvejols dans la Micheline, avec un poète italien, un poète toscan accompagné d'un accordéoniste. Et je me souviens qu'il y avait 200 personnes qui étaient restées sur le quai, qui n'avaient pas pu avoir leur place dans la Micheline. Et puis, on a eu aussi des grands moments au château de Baours, à la maison forte de Baours, avec des soirées qui étaient organisées par des Italiens. On avait l'apéritif et le repas souvent dans les cuisines, puis ensuite des spectacles qui étaient proposés à l'étage. On a eu le Décaméron de Boccace, on a eu d'autres choses. On a eu Irène Bourda qui est venue chanter en étrusque. Enfin, des moments assez magiques.
Ouais. Et quels sont, enfin, vous avez combien d'adhérents, du coup, là, en ce moment, à l'association, entre Mende et, du coup, je suppose, du côté...
Alors, il faut dire que ce sont deux choses complètement différentes, puisque à Mende, nous sommes une association loi 1901, mais à Volterra, ils n'ont pas d'association, puisque c'est un comité municipal. C'est le maire, quand il est élu, qui lance un appel à la population et qui voit quelles sont les personnes qui sont intéressées pour s'investir dans le jumelage. Et puis, à partir de là, il crée une sorte de règlement. Ils appellent ça il regolamento, mais ce sont nos statuts. Et il y a une équipe qui se met en place et qui est renouvelée donc systématiquement à chaque élection. Alors que chez nous, c'est une association. Nous avions choisi d'ailleurs le terme association de préférence à comité parce que association, ça englobe un peu tout le monde. Ce sont les villes qui sont jumelées. Ce ne sont pas quelques-uns. Et il faut dire que à une époque même, nous avions, mais ce n'était pas très conforme à l'esprit de la loi 1901, nous avions décidé de ne pas avoir d'adhérents parce que c'était toute la ville qui était jumelée. Et on invitait absolument tout le monde. Ça a duré quelques années. Et puis, à l'heure actuelle, je crois quand même que l'on est au-delà des 100 adhérents, malgré tout.
Ah oui.
Donc, c'est une association qui a une certaine énergie. Je pense que la présidente actuelle, Sabine Rousseau, étant quelqu'un de particulièrement chaleureux, fait en sorte d'animer cette association pour que, justement, le jumelage puisse survivre.
Éric ?
Justement, vous pouvez nous décrire un peu la ville de Volterra ?
Quoi ? Décrire la ville de Volterra en quelques mots, c'est très difficile parce que c'est une ville qui est chargée d'un passé et d'une histoire absolument exceptionnelle. Je crois que lorsque l'on est à Volterra, on marche dans les strates de l'histoire. Il y a 13 000 ans d'histoire. Donc, depuis la civilisation villanovienne, qui était une civilisation pré-étrusque, jusqu'à aujourd'hui, en passant bien évidemment par l'époque romaine, on vient de découvrir encore récemment un amphithéâtre de 80 mètres de long à Volterra, qui était capable d'accueillir plus de 20 000 personnes, que tout le monde a ignoré jusqu'à ce jour. On a découvert ça il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Il y a un théâtre romain, puis il y a eu l'époque médiévale, qui était une époque également tout à fait fabuleuse, où c'était les princes-évêques qui étaient à la tête de la ville. Et puis, il en reste le palais des prieurs qui a servi de modèle au palais de la Signorie à Florence. Quand on va à Florence, on a ce Palazzo Vecchio, mais il est postérieur à celui de Volterra.
Mais vous, qu'est-ce que tu aimes le plus à Volterra ? Est-ce que tu as une place, un café, je ne sais pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose à tout ?
Tout. Je ne peux pas faire de distinction. C'est-à-dire qu'il y a des cafés, effectivement, qui sont particulièrement accueillants. Il y a des amis, il y a des musées, il y a des parcs. Quand on prend, par exemple, l'apéritif, le spritz ou l'apérol, le soir, à Volterra, au bord des murs, et que l'on a en face le soleil qui se couche sur la Corse, que l'on voit la mer, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à voir.
Oui, ça change un peu de la grisaille qu'on a en ce moment.
Vous savez, il y avait un artisan d'albâtre, puisque Volterra aussi, c'est pour ça que c'est une ville intéressante, c'est la capitale mondiale de l'albâtre. Il y avait un artisan qui est décédé il y a peu de temps, à 89 ans. Je l'avais fait venir à Mende 2 ans avant qu'il ne parte. Et je lui avais dit, mais si tu veux, tu peux rester à Mende, nous, on serait très heureux de te garder. Il me dit, c'est une proposition qui m'intéresse, mais tu vois, Bernard, il y a un problème. À Mende, on ne voit pas la Corse.
Alors, concernant l'association Mende-Volterra, toujours, j'ai pu voir qu'il y avait des voyages qui se faisaient. Est-ce qu'il y a peut-être un voyage envisagé en mai 2022 ? J'ai vu ça dans
Alors, il y a eu, bien sûr, de nombreux voyages qui ont été faits. Alors, très souvent, avec Volterra comme destination. Et à partir de Volterra, il faut savoir que l'on peut rayonner sur toute la Toscane et même un peu au-delà, puisque quand on est à Volterra, on est au cœur du triangle Pise, Sienne, Florence. Alors déjà, rien que ces trois noms évoquent la Renaissance italienne, et il y a tout un programme, bien entendu, qu'on peut faire. Puis il y a Arezzo, pas très loin, et puis il y a des villes comme Pistoia, comme Empoli, comme Lucca, qui sont des villes absolument magnifiques. Et puis, depuis 2 ou 3 ans, comme maintenant Sabine est présidente et comme elle a vécu longtemps dans la région de Naples, elle a proposé un voyage à Naples pour découvrir cette ville, qui est une ville particulièrement riche aussi. Voir Naples et mourir, je crois, on dit. Hein. Et c'est une ville qu'il faut voir. Et cette année, je pense qu'il devrait y avoir, c'est encore à confirmer, je ne veux pas trop m'avancer, mais il devrait y avoir aussi un voyage sur la côte amalfitaine.
D'accord, ok. Alors, on va passer à la chronique d'Éric. C'est l'heure de la chronique d'Éric. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la culture woke.
Oui. En fait, j'ai écouté une émission radio la semaine dernière sur une onde différente. Mais bon, j'étais en voiture hors du département, alors j'ai le droit. Hein. Et là, je tombe sur un débat passionnant sur la place de la raclette dans la tradition estivale des peuplades du nord de la France en pèlerinage à la montagne. Quand l'un des intervenants, remis en place par un spécialiste, de répondre « Ok, boomer ». Ça, c'était bien envoyé. Alors, le boomer en question, alors de répondre « Ok, woke ». Alors là, j'ai pas compris. l'insulte de traiter quelqu'un de petit animal poilu, proche des chevaliers Jedi, et tout mignon en plus, alors qu'il l'aurait traité de gremlins, animal poilu aussi, mais fort pénible la nuit venue, ça marchait très bien, surtout au sujet de la raclette. Enfin bon, s'en est suivi un débat acharné sur la woke culture. Mais la woke culture, qu'est-ce que alors, le terme woke, à ne pas confondre avec e-woke donc, serait initialement utilisé par le mouvement des anti-esclavagistes au XIXe siècle, qui se revendiquaient comme éveillés, awake en anglais, à ne pas confondre avec le aware de Jean-Claude Van Damme, qui est une minorité à lui tout seul. Un militantisme historique, qui aujourd'hui se réveille avec des racines, qui semblent donc bien profondes. Cette culture s'est poursuivie dans les années 60, avec des mouvements comme les Black Panthers, et plus récemment avec de nombreuses causes militantes, comme le mouvement Black Lives Matter, les organisations LGBT ou la lutte contre le sexisme. Donc à la base, la culture woke, cela me semble être une bonne idée pour dénoncer les inégalités que subissent certains individus qui appartiennent à des minorités, ont un taux de chômage plus élevé, se font arrêter par la police plus souvent, ont plus de difficultés à se trouver un logement, sont sous-représentés sur les bancs d'université et surreprésentés derrière les barreaux. Ça, a priori, c'est un fait, et même une donnée statistique. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, au nom du progrès, les partisans les plus radicaux de la culture woke ont fait de la censure leur fonds de commerce et ont monopolisé ces combats. Et au lieu de lutter contre les inégalités, ils s'occupent plutôt de faire des procès de mauvaise intention. Malheureusement, nous ne pouvons pas refaire le passé. Par contre, aujourd'hui, nous pouvons faire en sorte de réduire ces inégalités. Par exemple, nous n'avons rien contre les gens du Nord. Et nous savons qu'ils ont longtemps été stigmatisés pour leurs habitudes culinaires et leurs mœurs familiales. Eh bien, nous serions prêts à accepter qu'à la place de leur pain au chocolat, ils puissent avoir accès aux chocolatines, tout comme nous. Voilà, en fait, le danger du wokisme. Ce serait que cette culture mène à l'autocensure préventive. Les détracteurs de cette culture woke, on va donc les appeler les boomers, profitent de tous les cataloguer comme de dangereux ayatollahs de la mauvaise conscience et peuvent ainsi s'éviter de traiter les fonds du problème. Parce que si on y réfléchit bien, dans ce contexte, qu'avons-nous à perdre collectivement en nous intéressant à des concepts mis en avant pour faire face à ces inégalités? Que risquons-nous en écoutant ceux qui ont l'impression d'avoir été silencieux trop longtemps, invisibles trop longtemps? Un peu d'intranquillité dans notre société tranquille, mais notre société n'est plus tranquille, nous ne pouvons plus fermer les yeux. La question n'est pas de tout avaler sur ce qui s'écrit et ce qui se dit, mais plutôt de reconnaître que ces idées se valent la peine qu'on s'y attarde, qu'elles contribuent à enrichir notre propre histoire intellectuelle, notre vie politique et sociale. Finalement, en écoutant les médias et les politiques, on a l'impression que le problème, c'est la woke culture plus que les inégalités. Et c'est peut-être plutôt ça, le problème.
Merci, Eric. Moi, j'avoue, je suis plus pain au chocolat que chocolatine. Mais bon, on va clore le débat, sinon on en a pour des heures. Alors, on va faire une petite pause musicale avec une chanson que tu m'as recommandée, Bernard. Douné Mossé, tu me dis si je me trompe sur la prononciation, enfin dans tous les cas tu prononces mieux que moi, mais alors c'est de Zucchero et Zucchero et Miles Davis.
Viaggio in fondo ai tuoi occhi, dai delusi smammai. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, so che ero tu ne mossi. braccio in fondo ai tuoi occhi, nei delusi smammai. La pioggia in fondo ai tuoi occhi, cancello, tu ne mosse.
Voilà, c'est une chanson bien connue des Italiens. Et justement, Bernard, en parlant de chansons, pourquoi tu as choisi... Tu m'en as donné plusieurs, hein, tu m'as donné 3 ou 4 musiques italiennes à mettre à la radio. Mais voilà, celle-ci, elle est quand même très connue des Italiens et en plus des jeunes aussi, alors que c'est quand même une chanson qui date un petit peu.
Oui, mais Zucchero est un chanteur qu'on continue d'écouter en Italie, comme Franco Battiato, qui est décédé cette année et qui avait, je crois qu'il était octogénaire. Mais les Italiens, même les jeunes, ont un répertoire relativement classique. Ils écoutent des chansons à texte un petit peu. Et parmi eux, il y a Vecchioni, il y a Capocella et tant d'autres.
Hein. On peut revenir sur le jumelage entre Mende et Volterra. Oui. Parce que comment ça s'est fait tout ça? À quel moment, à quelle année en fait s'est fait ce jumelage entre ces deux villes?
Ben, je le disais tout à l'heure, les cérémonies ont eu lieu en 92 à Mende et en 93 à Volterra.
Mais du coup, c'est... ce jumelage, ce que je veux dire, c'est que tu peux nous expliquer le pourquoi avec cette ville et plutôt qu'une autre, en fait.
Oui, je disais que c'était par rapport donc à la découverte ou la redécouverte de la ville de Volterra dans mon livre d'italien de collège. Et m'étant rendu sur place, j'avais fait des rencontres avec des gens, non seulement des habitants de Volterra, mais aussi avec des responsables de la mairie. Et j'avais fait la proposition ensuite au maire Jean-Jacques Delmas, qui m'avait dit que l'on pouvait poursuivre les contacts.
Ok, en fait, je me fais un petit peu des regards là. Je fais répéter des questions qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Je suis désolée. Alors, j'ai une question. Là, c'est sûr, tu n'as pas répondu à cette question. Est-ce que tu aimes le foot?
Je pense que ça fait partie de mes passions, avec l'Italie, la littérature et les voyages. Je crois que le foot, effectivement, j'y suis tombé dedans quand j'étais enfant et j'y suis encore, puisque je continue avec l'AFL depuis maintenant 2014. Et l'année dernière, j'avais produit un petit livre aussi sur les 100 ans de foot à Mende.
D'accord.
Il y a une équipe de foot à Volterra ? On n'a pas essayé de faire un petit match
Oui, il y a une équipe de foot qui s'appelle la Volterra. Ils sont venus jouer en 1994 au chapitre contre l'éveil mandois. Et ils avaient pris une déculottée remarquable puisqu'ils avaient perdu 5-0.
Ah, quand même,
hein. Et l'entraîneur, qui était un entraîneur de renom qui s'appelait Lombardi, avant la fin du match, avait quitté le chapitre. Il était allé dans le bus. Et il n'a pas adressé la parole à ses joueurs de toute la soirée.
Ah, super le...
Sachant qu'ils étaient tous arrivés quand même avec les lunettes de soleil, les petits t-shirts rouges, les bermudas bleus très à l'italienne.
Eh ben, en parlant de foot, on a quelqu'un dans le studio qui est aussi féru de foot. Je crois que c'est Thibaut, hein, si je ne me trompe pas.
En effet, en effet.
Ouais, et tu as une petite dent encore. Et toujours, peut-être contre les Italiens.
Eh oui, oui, toujours, parce que on va parler de sport, comme à chaque fois dans cette émission que je fais une chronique. Et une fois n'est pas coutume, on va sortir des frontières lausériennes. Parce que quand Adèle m'a dit que l'émission d'aujourd'hui allait faire la part belle à l'Italie, j'avoue que j'ai quand même un peu hésité à venir. Je suis féru de foot, comme elle a dit, et je suis surtout très rancunier. Et ça, je vous l'apprends. Et donc, du coup, ben, j'ai encore un peu de mal à digérer cette finale de Coupe du Monde 2006, même si ça fait bientôt 15 ans. Ça fait 15 ans, même. Alors, on va un peu remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, j'ai tout juste 12 ans. Je commence à comprendre un petit peu la portée des compétitions internationales. Et c'est la première fois que je suis vraiment l'équipe de France de bout en bout et dont je me souviens. Il y a bien eu 98 et l'Euro 2000 qu'on a gagné contre l'Italie, soit dit en passant. Mais bon, c'est pas pareil. Là, vraiment, je suis tous les jours, même les matchs où l'équipe de France ne joue pas, je suis devant. Et en plus, à l'époque, justement, l'équipe de France, elle n'est pas loin du sommet. C'est la dernière de Zidane. Chaque match peut être son dernier. Henry a jamais été aussi fort. Les tauliers sont dans la force de l'âge. Et puis, le gardien, c'est mon idole depuis toujours. C'est Fabien Barthez. J'ai ses maillots à Manchester United, en équipe de France. Bref, je rêve que d'une chose, qu'on remporte la compétition et que je puisse crier ma joie comme le gosse que je suis à ce moment-là. Alors, ça commence pas très bien parce qu'on fait un premier tour très poussif. 2 matchs nuls, 1 victoire un peu en trompe-l'œil contre le Togo. Mais bon, on passe les poules et on arrive en 8e de finale. On arrive un peu en victime expiatoire contre l'Espagne, qui promet de mettre Zidane à la retraite. On sait comment ça s'est terminé. Et après, on affronte le Brésil, puis le Portugal, qu'on élimine pour se retrouver en finale, avec quand même des performances assez énormes de tous les joueurs, et notamment de Zinedine Zidane contre le Brésil, qui semble sur un nuage, il est presque inarrêtable. Du rêve à la réalité, en quelque sorte. Bon, après, il reste une dernière étape, c'est la finale, et pas des moindres, puisque c'est justement contre l'Italie. Bon, tout le monde sait comment ça se finit, je ne vais pas refaire l'histoire. Hein. Un arrêt fou de Buffon sur une tête de Zidane, un coup de tête de Zidane au sens propre sur un joueur dont je vais taire le nom, et un pénalty sur la transversale de Trezeguet qui fait que ben, c'est pas nous qui soulevons la coupe. Finalement, c'est l'Italie, et moi, je passe ma nuit à pleurer un peu à cause de ce pays. Donc forcément, aujourd'hui, j'ai encore ça en tête quand on me parle de l'Italie. Voilà, c'est sûrement le premier souvenir qui me revient à l'esprit. Et bon, j'avais un peu de mal à les mettre en avant. Bon, puis au final, Adèle m'a un peu parlé, elle a su me raisonner, d'autant que ça fait quand même plus de 10 ans, et qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai pu voir Griezmann et compagnie à leur tour remporter la Coupe du Monde. Là aussi, j'ai pleuré, mais de joie cette fois. Et en plus, avec une petite satisfaction en plus, c'est que les Italiens étaient sur leur canapé, puisqu'ils avaient regardé la compétition depuis chez eux, n'ayant pas réussi à se qualifier. Oui, parce que je sais être raisonnable, mais j'aime encore beaucoup voir l'Italie perdre, placer une petite pique ou deux là-dessus. Alors, autant vous dire que j'ai pas passé un été sportif 2021 des plus réjouissants. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire.
Super, merci Thibaut. On va passer du coup, Bernard, à la semaine toscane. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet et sur, cette semaine qui démarre aujourd'hui. C'est quoi la programmation, du coup ?
Alors, aujourd'hui... Il y a un partenariat avec le Ciné-Club Mandois, la projection d'un film de Visconti, Les Nuits Blanches, qui est un film adapté d'un petit texte de Dostoïevski et qui est en fait, pour un jumelage franco-italien, un film très approprié puisque Il s'agit d'un film franco-italien. Le rôle principal, c'est Marcello Mastroianni, mais il y a également Maria Schell et Jean Marais qui sont dans la distribution. Il s'agit d'une histoire d'amour. Je ne vais pas raconter pour que les gens qui veulent aller le voir en gardent la surprise, mais c'est un très beau film de Visconti qui a été tourné à Cinecittà, dans des décors donc, des studios, mais qui reproduisent le port de Livourne, qui est une ville toscane pas très loin de Volterra.
Juste pour savoir, le film, là, il est en italien ou en...
Je pense que je ne peux pas répondre. Mais habituellement, les films sont en VO, ils peuvent être aussi sous-titrés. Bon, ça ne sera pas qu'en VO, quoi qu'il en soit.
Oui, ce sera pour
donc,
tout le monde.
Tous les gens qui peuvent ou qui savent lire sont invités à aller voir ce film.
C'est à quelle heure tu as l'horaire?
C'est autour de 20h, 20h15, comme d'accord, d'habitude, les séances de ciné-club. Et puis demain, à 17h, il y a à l'Espace des Anges un spectacle pour enfants par la compagnie Circus Bandando, qui est déjà venue plusieurs fois, la compagnie de Pasquale Vaira, qui est un voltairan, et qui généralement fait l'unanimité auprès du jeune public. À 18h30, ensuite, à la médiathèque, il me semble que c'est bien là, oui, il y a une dégustation de vin et de fromage italien, sachant qu'il y a une petite participation pour les gens qui ne sont pas adhérents. Ensuite, le jeudi, à 17h, à la salle Urbain 5, il va y avoir une conférence du professeur Yves Stalloni, qui vient de l'université d'Aix-en-Provence et de Toulon, une conférence consacrée à Dante, puisque cette année, un peu partout, on célèbre le 700e anniversaire de la mort de Dante. Et puis, en soirée, à 20h15, à l'Espace des Anges, je lis un texte de Victor Hugo tiré de La Légende des siècles, les 740 vers de la vision de Dante, accompagné au saxophone par Alain Desbois.
D'accord. Eh bien, justement...
Et puis, si je peux aller ouais, jusqu'au bout peut-être de la programmation, après le vendredi, il y a le traditionnel repas italien à l'Espace événement pour lequel il faut réserver à l'Office de tourisme. Et pendant toute la semaine et jusqu'au 13 novembre, il y a également une exposition à la médiathèque consacrée à Dante.
Mais justement, pour la célébration des 700 ans de Dante, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi ce poète-là, du coup, et nous parler de lui, de sa carrière de...
Alors, la semaine toscane a toujours eu pour objet ou pour objectif de faire découvrir la culture toscane aux Mandois, à travers non seulement un certain nombre de thèmes, mais aussi de personnages. Et il y a eu une semaine toscane, il y a 2 ans, consacrée à Léonard de Vinci, à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort. Nous avions fait aussi une semaine toscane consacrée aux Médicis, aux sacrés toscans, et également une autre consacrée aux Étrusques. Et celle-ci s'inscrit dans cette continuité, parce que Dante est certainement, de tous les toscans, le plus célèbre. On dit que c'est lui qui est à l'origine de la langue italienne. Et il est né en 1265 à Florence et mort en 1321 à Ravenne. D'ailleurs, il y avait un projet cette année qui n'a malheureusement pas pu se réaliser en raison du Covid, mais nous étions quelques-uns à devoir faire le parcours à pied de Florence à Ravenne sur les traces de Dante, 104 km en 10 jours, donc c'était quand même tout à fait jouable, comme nous avons fait d'ailleurs avec les mêmes amis italiens. En 2019, nous avons fait Anchiano, où est né Léonard de Vinci, Amboise, où il est mort, en scooter, 1300 km.
C'est original. Alors, tu es venu avec un extrait d'un texte que tu voulais lire.
Alors, Dante est connu essentiellement pour la Divine Comédie, qu'il avait intitulée simplement La Commedia, et qui a été donc divine dans l'édition de 1555 d'un éditeur vénitien. Alors, c'est un livre qui est une invitation... au voyage dans le monde de l'au-delà avec 3 étapes, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Dante est accompagné par Virgile, le poète latin de Mantoue, puis par Beatrice qui était sa muse et qui a été son amour, qu'il a rencontré à l'âge de 9 ans. Et d'ailleurs, le chiffre 9 est tout à fait fondamental dans la construction de la Divine Comédie, et puis le paradis, où là il est confié à Saint Bernard de Clairvaux et il va vers Dieu directement. Alors moi je vais vous proposer le chante 33e de l'Enfer, parce que l'Enfer est certainement le texte le plus marquant de cette Divine Comédie. Il a été ensuite adapté aussi bien au théâtre qu'en musique. Et ce chant 33e nous invite, avec Dante, à rencontrer certains personnages qui ont été punis éternellement. Et le premier pécheur qu'on va rencontrer, c'est Ugolin, qui a sa tour à Pise. Quand on va à Pise, et si on peut justement se souvenir de ça, ça permet d'avoir un regard complètement différent sur cette tour qu'on appelle la tour de la fin. Le pêcheur détourna sa bouche du féroce repas, et après l'avoir essuyé aux cheveux de la tête qu'il avait rongée par derrière, il commença ainsi. « Tu veux que je renouvelle cette rage désespérée dont le souvenir m'accable avant même que je parle ? Mais si mes paroles sont une semence qui porte pour fruit l'infamie du traître, que je ronge, tu me verras parler et pleurer à la fois. Je ne sais qui tu es, ni sous quels auspices tu es venu jusqu'ici. À ton langage, tu me parais florentin. Apprends que je fus le comte Ugolin, celui-ci, l'archevêque Ruggieri. Je te dirai pourquoi je lui suis un tel voisin. Il est inutile de répéter que, malgré ma confiance en lui, victime de ses affreux soupçons, je fus saisi et dévoué à la mort. Mais ce que tu ne sais pas, c'est combien cette mort fut atroce. Tu vas en entendre le récit. Et tu sauras si ce monstre a mérité ma haine. À travers les soupiraux de la tour, à qui depuis mon supplice on a donné le nom de Tour de la Faim, et où tant d'autres seront enfermés après moi, une légère ouverture m'avait déjà plusieurs fois fait apercevoir la clarté du jour, lorsque j'eus un songe funeste qui déchira pour moi le voile de l'avenir. Ruggieri me paraissait être mon seigneur et mon maître. Il poursuivait un loup et ses louveteaux vers la montagne qui dérobe aux paysans la vue de l'état de Luc. Il chassait devant lui les Gualandi, les Sismondi, les Lafranchi, précédés eux-mêmes de chiennes maigres, affamées et dressées par des mains habiles. En peu de temps, le loup et ses petits me parurent fatigués et les chiennes semblaient, de leurs dents aiguës, leur fendre le flanc. Quand je fus éveillé, avant l'aurore, j'entendis mes fils, qu'on avait emprisonnés avec moi, pleurer, en dormant encore, et demander du pain. « Tu es bien cruel, toi !» Si tu ne gémis pas du triste sort qui m'était annoncé, et si tu ne verses pas de larmes, de quoi peux-tu donc pleurer ? Déjà, nous étions debout. Déjà, approchait l'heure où l'on avait coutume d'apporter notre nourriture. Chacun de nous était tourmenté de noirs pressentiments, funeste effet de notre songe. J'entendis clouer les portes de l'horrible tour. Je regardais mes enfants sans parler. Je ne pleurais pas, tant je me sentis en dedans devenir de pierre. Mes fils pleuraient. Mon jeune Anselme me dit « Pourquoi nous regardes-tu ainsi, mon père ? Qu'as-tu donc ? » Je ne pleurais pas encore. Et je ne répondis pas tout ce jour et la nuit qui suivit, jusqu'au lendemain, lorsque notre soleil vint éclairer le monde. À peine un faible rayon eut-il pénétré dans la prison de douleur, que je vis sur la figure de mes quatre enfants les mêmes symptômes d'épuisement qui devaient altérer mon visage. De rage, je me mordis les deux mains. Mes fils, pensant que je faisais ainsi pour manger, se levèrent et me dirent « Oh, mon père, notre douleur sera moins affreuse si tu manges de nous. Tu nous as donné ces chairs misérables, eh bien, tu les reprends. » Je m'apaisai alors pour ne pas redoubler leur désespoir. Ce jour et le suivant, nous restâmes tous dans un morne silence. Ah, terre insensible, pourquoi ne t'es-tu pas entr'ouverte ? Nous avions atteint le quatrième jour. Gado vint tomber à mes pieds en me disant « Mon père, est-ce que tu ne viens pas à mon secours ?» Et il expira. Comme tu me vois en ce moment, je vis les trois autres s'éteindre, un à un, entre le cinquième et le sixième jour. La vue troublée par mon état de faiblesse, je roulais sur eux, presque sans connaissance, et je les appelais encore deux jours après leur mort. Ensuite, la faim eut plus de pouvoir que la douleur. À peine Ugolin eut-il parlé qu'il reprit le misérable crâne auquel, en tordant les yeux, il donna, avec la fureur d'un chien, des coups de dents qui pénétrèrent jusqu'à l'os. Ah, Pise, la honte des nations répandues sur ce beau pays où le si résonne, puisque tes voisins sont trop lents à te punir, que la Capraille et la Gorgone se détachent de la mer, et que, venant former une digue à l'embouchure de l'Arno, elle fasse refluer ses eaux pour engloutir tous tes habitants.
Merci, merci Bernard. J'ai une question concernant la lecture que tu vas proposer pendant la semaine. C'est ouvert à partir de quel âge ?
À partir de tout âge, même si, bon, je pense que les plus jeunes enfants peut-être risquent de s'endormir, mais ça peut être une berceuse.
Alors, concernant les autres animations, tu as parlé d'un repas. Tu peux nous parler de comment ça va se passer? Est-ce qu'on a le droit de savoir un peu à quelle sauce
on va être mangé? Non, à quelle sauce on va ou quelle sauce on va manger? Ouais. C'est un repas traditionnel, donc il y aura absolument tout, de l'apéritif jusqu'au café, en passant par le Vincento et les cantuccini, qui font partie de la tradition italienne. Je ne sais pas si vous savez qu'en principe, en Italie, en Toscane tout particulièrement, un repas s'achève toujours par ce cérémonial du cantuccini Vincento. Les cantuccini sont des biscuits aux amandes que l'on fait ramollir en les trempant dans du Vincento, qui est un vin liquoreux et qui rappelle un peu le vin de messe. Et c'est un complément dans le repas particulièrement agréable. Il y aura aussi l'apéritif et puis tous les services traditionnels, avec également un orchestre pour faire danser.
Ça donne envie. Eric ?
Pour ceux qui ne pourraient pas assister au repas, est-ce qu'ils viennent avec des produits
Alors, les produits, il y en a à déguster, effectivement, je le disais, mercredi à 18h30. Mais puis, ces produits italiens sont généralement en vente à l'occasion du marché de Noël. Donc... je crois que c'est une occasion aussi, même pour faire des cadeaux, de retenir ces dates de décembre pour pouvoir s'approvisionner un petit peu en produits toscans.
La boutique, il y a une boutique du coup qui sera là toute la semaine, enfin qui sera ouverte toute la semaine, c'est ça?
Je pense que non. Pour le marché de Noël, ça sera peut-être une seule journée.
D'accord, ok. On va parler de littérature, mais c'est un autre genre. Hein. Avec Cyril, tu vas nous parler d'un manga.
Oui, tout à fait. Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler de mon livre préféré, à la base, mais c'était sans compter sur une découverte absolument géniale que j'ai fait la semaine dernière. Ce sera donc très certainement pour la prochaine chronique, ce qui vous fait une raison supplémentaire de ne pas louper notre prochain rendez-vous. Alors, avant toute chose, est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment bien les mangas? Voir qui en lisent.
Ah, j'avoue que moi, la culture du manga, c'est pas encore ça.
Non, donc le nom de Junji Ito, ça vous parle absolument pas.
Pas vraiment.
Donc pas de souci, je vais vous le présenter. Donc Junji Ito, c'est un mangaka japonais qui est considéré comme un maître de l'horreur dans son domaine. Et oui, encore de l'horreur, que voulez-vous. Halloween est certes passé, mais il n'y a pas de saison pour aimer le frisson. J'ai donc découvert la semaine dernière son histoire intitulée « L'énigme de la faille d'Amigara ». C'est une histoire très courte, puisque je l'ai finie en une trentaine de minutes, en prenant malgré tout le temps d'apprécier les dessins. Parce que le travail de Junji Ito, quand il s'agit de représenter des choses horrifiques, est vraiment prenant. Il a une façon de dessiner qui fait que je pourrais regarder pendant des heures chaque détail, comme si j'étais hypnotisé par la curiosité, je l'avoue, souvent morbide de ce que je regarde. On a une sorte de mélange parfait entre la monstruosité et la fascination, et c'est probablement ce que vous ressentirez aussi si vous tombez sur ses œuvres en cherchant son nom sur Internet, un petit peu comme devant des monstres de Lovecraft si vous êtes attaché à cet univers. Voilà le style de Ito, c'est donc de l'horreur dans du quotidien, sans jamais que l'on ait vraiment toutes les réponses au pourquoi du comment. Vous avez libre interprétation de ce côté-là. Mais rentrons dans le vif du sujet et parlons de l'énigme de la faille d'Amigara. Vous pourrez le trouver gratuitement sur Internet et, comme je l'ai dit, il est proche du format d'une nouvelle, donc il est très court, si ça peut motiver les lecteurs les moins aguerris tels que... Eh bien moi, déjà, pour commencer. Assez parlé, parlons maintenant du scénario. Après un tremblement de terre, des trous étranges sont découverts sur le flanc d'une montagne. Des trous en forme de silhouette, s'enfonçant dans la roche et à l'effigie de quelques personnes qui, elles seules, peuvent y pénétrer. Ces personnes ont été comme appelées par la montagne, et la pensée de rentrer dans leur trou correspondant devient une chose à laquelle elles ne peuvent plus s'empêcher de penser, comme si elles étaient complètement ensorcelées. Les autorités essayent évidemment de scanner, mais tout est parfaitement insondable, parce que chaque faille est beaucoup trop profonde. Qu'y a-t-il à l'intérieur, voire au fond? Je vous laisse le lire pour le découvrir, mais sachez que la dernière page a pu glacer le sang de plus d'une personne, dont moi. Ma chronique est à présent terminée. Promis, la prochaine fois, je ne parlerai pas d'horreur. Je vais quand même essayer de vous ménager pour ne pas vous faire faire de cauchemars à vous ou bien à mes collègues.
Sur ce, je vous
dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira sûrement mieux demain.
Merci Cyril, c'est gentil. Alors, on va continuer toujours sur cette semaine toscale. Bernard, comment les Italiens, et donc il y a des Italiens qui vont venir à Mende pour cette semaine, comment ils sont accueillis par vous, l'association ?
Alors, ils sont cette année relativement peu nombreux, mais il y a notamment Pasquale Vaira qui vient, mais qui est parti depuis déjà plusieurs jours de Volterra, puisqu'il avait l'intention de faire un petit circuit avant d'arriver ici. Alors, quand ils sont peu nombreux, ils peuvent être accueillis en famille. Maintenant, on a eu parfois des surprises, puisque en 1997, on avait accueilli 309 Volterrans. Alors qu'il s'était annoncé à 280, il y en avait une vingtaine en plus. Et je me souviens les avoir eus dans mon jardin. J'avais fait le tour du lotissement pour aller frapper aux portes pour savoir si quelqu'un voulait les prendre. Mais on n'en est plus là. Maintenant, j'espère que, après ces deux années de Covid, les échanges vont pouvoir reprendre et que nous allons pouvoir accueillir beaucoup plus de Volterrans.
Du coup, cette année, est-ce que à peu près, tu sais combien d'Italiens veulent venir ?
On ne peut pas donner de chiffres exacts. D'accord. Il y en avait encore d'autres qui devaient venir et qui, au dernier moment, viennent d'annoncer qu'ils ne pouvaient pas.
D'accord.
Alors, parfois, ils craignent le mauvais temps, puisque j'ai vu que la météo annonçait même de la neige. Il y avait eu les intempéries là, de ce week-end. Donc, tout ça, quand ils entendent ces informations, ça ne les incite pas beaucoup à venir.
Oui, c'est sûr. Ça, on peut.
Surtout qu'ils viennent la plupart du temps en voiture. Hein.
Ah oui, d'accord. Combien de bénévoles pour cette semaine toscane ?
Je ne pourrais pas dire le nombre exact, mais il y a toujours le noyau dur qui s'investit et qui travaille. Et c'est sûr que ça demande de l'énergie quand même. D'autant que la semaine toscane a été décidée relativement tard, dans la mesure où, jusqu'à l'été, on ne savait pas si la manifestation pourrait avoir lieu. Et je crois qu'un tel événement se prépare longtemps en amont. Et cette année, ça a été un peu particulier. Je trouve que c'est déjà beaucoup que la semaine toscane puisse avoir lieu.
Oui, bien sûr. On va faire maintenant un petit pas de côté avec une autre association, toujours en littérature. En ce moment, c'est littérature, foot, voilà. On mélange tous les genres. Tu as une nouvelle association, enfin une nouvelle maintenant qui est quand même ancrée depuis un an, bientôt sur le territoire de Mende, toujours en lien avec l'Italie.
Toujours en lien, oui. Je pense qu'elle est le résultat de toutes les relations que j'ai pu avoir avec les uns et avec les autres. C'est une association média culturelle qui veut promouvoir et valoriser non seulement le territoire de Lozère, mais aussi la Toscane, et qui se propose d'éditer des livres. Nous en avons quatre qui vont sortir, déjà un qui est apparu cette année. Parmi ces quatre, il y en aura un consacré à Pasolini, puisque en 2022, on va célébrer le centenaire de sa naissance. Et on se propose aussi d'organiser des expositions, des conférences, voire des petits documentaires filmiques. Donc pour l'instant, c'est une association qui est très dynamique. Il y a la parité entre les Italiens et les Français. Nous avons notre site internet qui sera bientôt hébergé par Google. Et les choses avancent tranquillement. C'est une association qui est parrainée par deux écrivains français, deux écrivains italiens. En France, c'est Sylvie Germain, qui est quand même un grand nom de la littérature contemporaine, et Joël Vernet. Et en Italie, c'est Ferruccio Brugnaro, qui est un poète vénitien, et Athos Bigondiali, qui lui est un écrivain toscan.
Le premier livre, du coup, qui est sorti, il s'appelle comment ?
Alors, le premier livre, c'est Peter Morin l'appelait « La Green Révolution ». Alors, quand je parlais tout à l'heure de valoriser le patrimoine, c'est une façon de dire que nous souhaitons faire connaître des gens qui, pour l'instant, ont été oubliés ou sont méconnus ou sont dans l'ombre. Ce Peter Morin, en fait, c'est un enfant du Mont-Lozère qui, après avoir fait des études à Saint-Privat, est parti d'un noviciat à Paris. Puis, au moment un peu de la guerre, un peu avant, il s'est embarqué pour le Canada, puis les États-Unis. Et il n'est jamais plus revenu en France. Il était né à Houltet, sur les flancs du Mont-Lozère. Et aux États-Unis, il a consacré sa vie au service des pauvres et des démunis. Et il était véritablement tout à fait actuel par rapport à ce que l'on entend dans certains milieux écologistes et C'était ce qu'on appelle un chrétien de gauche, très engagé. C'est quelqu'un qui vivait vêtu comme un clochard et qui allait dans cette tenue faire la leçon aux financiers de Wall Street. C'est quelqu'un qui écrivait aussi. Et aux États-Unis, il y a 70 livres qui lui ont été consacrés. Et il y a même des gens qui sont adressés au Vatican pour le faire entrer en béatification. Sachant qu'en France, c'est le premier livre qui paraît sur Peter Morin, qui s'appelait Pierre, mais les Américains l'appellent Peter Morin. Et il a créé le mouvement du Catholic Worker, qui est un mouvement ouvrier catholique, avec Dorothy Day, à laquelle certaines biographies aussi ont été consacrées, et qui, elle, sera probablement béatifiée, et qui était une femme proche de la chanteuse Joan Baez, qui intervenait dans ses meetings. Enfin, voilà. C'est un sujet qui est tout à fait digne d'intérêt. Et c'est Jean-François Salles qui est l'auteur de cet ouvrage, 268 pages, qui vient de paraître et qui se trouve un peu partout désormais.
Super. Alors on va rappeler juste une dernière fois, la semaine Toscane, ça commence aujourd'hui jusqu'à samedi.
Et jusqu'au 13 pour l'expo.
Jusqu'au 13 pour l'exposition. Et bien c'est la fin de cette émission. Merci Bernard d'être venu parler de la semaine Toscane et de l'association. Merci aux chroniqueurs Thibaut, Cyril, Eric. On se quitte avec une rappeuse italienne très connue. Alors j'avoue que je la connaissais pas, mais en tout cas en Italie elle est très connue, elle s'appelle Madame. Vous pouvez retrouver Happy Hour sinon en podcast sur 48FM et l'émission sera rediffusée jeudi à 19h. On se retrouve donc dans deux semaines. Salut à tous. Mother, why?
Certe sere in cui mi manca merda e sicchialia, uscire con due calici e le cicchiarie. C'ho amore baby quanto bello però sicchialia, un poco ancora perché ficcatine, fittatiche. Certe sere tu mi manchi perché ficcachi, e un poco ancora finché sembriamo le fanterie. Io non mi trovo, sciolgo le pastiglie digestive. Ciao amore, vivi bello, però non mi coccolie. Uscire con l'abito nero e scicchiarie, mentre metto cose per sembrare come quelle un po' più fighe. Però mando un bacio a quelli che mi davano i vaccini ma senza volermi. Allora ciao, amici, ciao. E trovo quelle sensitive, mi fanno un party per la bella Roma, ti facciamo le valigie. Portati tutti gli ori, money, le bigiotterie, perché già a Roma te ne trovi, fidati di me. Mamma mia, bella mia, che mi manca la voce. Questa sera, l'ubriaca, ho lato forte il tuo nome. Sei la cosa che ci penso, se ci penso dopo un incubo. E quando mi sveglio il cuore a palla, abbraccio il mio cuscino e lì ci sei. Certe sere in cui mi manca merda e sicchialia, uscire con due calici e le cicchiarie. C'ho amore vivi quanto bello vero succhialia, un poco ancora perché ficcatine, fittatine. Certe sere tu mi manchi perché si cacchie, e un poco ancora che mi parli delle fanterie. Io non mi drogo, sciolgo le pastiglie digestive. Ciao amore, bibi bello, però dammi coccolini. Se vogliamo noi possiamo non cadere, e se mi parli con quel tono anche stasera, beh, trovo in disco qualche bimbo come Mick Mick, che ha voglia di baciarmi il collo mentre parlo di come stai te. La saliva che non metti sopra le cartine, la sprechi a dirmi ciò che non voglio sentire. Balla, mica balla cicchiarie, che la folla che da chi è. Esco fuori per una cicchia e vedo cicchialie. Mamma mia, bella mia, che mi manca la voce. Questa sera, l'ubriaca, ho parlato forte il tuo nome. Sei la cosa che ci penso, se ci penso dopo un incubo. E quando mi sveglio il cuore fa l'abbraccio te. Certe sere in cui mi manca merda si chiedi, e un poco ancora finché sembriamo alle fantasie. Io non mi trovo, sciolgo il cuore del mio baby file. Un poco ancora, oh.